Toutefois, mon Seigneur, s'il vous plaît de vous donner la peine de lire ma relation, vous jugerez qu'il est vrai que ce canal est faisable, qu'il est la vérité difficile à cause du coût, mais que regardant le bien qui doit en arriver, l'on doit faire peu de considération de la dépense. Lettre de Pierre-Paul Riquet à Colbert, le 15 novembre 1662.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
En 1662, Pierre-Paul Riquet a 53 ans. C'est donc, selon les critères du XVIIe siècle, un homme déjà mûr. Il est issu d'une famille de la notabilité bitéroise. Son père faisait partie du Conseil des Trente qui dirigeait la ville. Il est un homme qui masse de l'argent. Il est responsable du paiement de la gabelle et donc il se paye en récoltant l'impôt sur le sel. Mais c'est un homme aussi qui a de l'ambition, de l'imagination, de l'ingéniosité et, disons-le aussi, de la volonté. Ayant fait ses études chez les jésuites, il s'est intéressé à la physique, à la géographie, à l'hydraulique et il a un vieux projet, celui de lancer un plan de construction, de creusement d'un canal qui permettrait de rejoindre la Méditerranée à la ville de Toulouse. À vrai dire, le projet n'est pas une idée immédiate. Dès l'Antiquité, à l'époque romaine, il y avait des plans de creusement d'un canal entre l'Atlantique et la Méditerranée. Puis Charlemagne, dit-on, aurait eu ce projet. Au XVIe et XVIIe siècle, François Ier, Charles IX, puis Henri IV, avaient également songé à entamer ce grand projet. Mais finalement, rien n'avait été fait. Par contre, dans le royaume, en 1642, avait été inauguré le canal de Briare, au nord, dans la région d'Orléans. Et donc, l'ère des canaux semblait peut-être être à nouveau au goût du jour. Pierre-Paul Riquet s'était donc lancé dans une série d'études sur la faisabilité d'un tel projet qui, à vrai dire, était effectivement titanesque. Pour ce projet, il avait besoin de l'appui du pouvoir. Et donc, il avait envoyé des courriers au puissant contrôleur général des finances, Colbert, qui lui-même en avait parlé à Louis XIV, et les deux hommes s'étaient montrés finalement intéressés par le projet de Pierre-Paul Riquet. Parce que creuser un canal qui permettrait finalement de joindre à la Méditerranée, si ce n'est à l'Atlantique, mais en tout cas à Toulouse, permettrait d'éviter le grand voyage qui faisait que les bateaux passaient par le détroit de Gibraltar, donc à portée des canons espagnols, puisque ce n'est qu'en 1704 que les Anglais vont s'emparer de Gibraltar. Et puis ensuite, il fallait remonter toute la péninsule ibérique jusqu'à Bordeaux. Et de là, les transporteurs pouvaient essaimer leurs marchandises dans le royaume. Avec un tel canal, plus de grands trajets par Gibraltar. La marchandise entrait par l'étang de Thau, pouvait rejoindre d'ailleurs Sète, et ensuite Toulouse. Donc il est indéniable que sur le plan purement stratégique, le canal était fort intéressant. Qui plus est, une telle entreprise était également prestigieuse pour la monarchie française. Et il est vrai que Louis XIV aimait ces hommes qui pensaient grand. Aussi, il reçut Pierre-Paul Riquet, Colbert fit de même, mais prudent, les deux hommes demandèrent à Riquet de participer lui-même à la construction du canal en jouant de ses deniers. C'est-à-dire que les débuts de travaux devaient se faire sur l'argent personnel de Pierre-Paul Riquet, ce que celui-ci accepta de faire. Louis XIV signa donc un édit royal en octobre 1666, prévoyant que les travaux pouvaient commencer le 1er janvier 1667. Ainsi pouvait débuter avec Versailles, le plus grand chantier du règne de Louis XIV. ainsi, au début de l'année 1667, commencé les travaux du canal royal du Languedoc. Riquet investit 2 millions de livres sur ses fonds personnels et la couronne promettait un investissement d'environ 16 millions. À vrai dire, l'argent royal arriva, mais toujours avec un peu de retard, ce qui fait que Riquet investit de plus en plus et d'ailleurs finit en partie ruiné par ce chantier. Parce que le chantier, il faut bien le dire, est considérable. Le canal du Midi fait 241 km. Mais en plus de ce kilométrage impressionnant, on compte 63 écluses, dont les fameuses écluses de Fonsterane, où en 7 écluses, les navires atteignent finalement un contrebas du canal. On compte également 126 ponts, 55 aqueducs, 6 ponts-canaux, un tunnel à Malpasse, un véritable chef-d'œuvre des années 1660, et on construisit également, entre 1667 et 1672, le bassin de Saint-Féréol, où bien des Toulousains tarnés et audois aiment venir se promener, mais qui est en fait une grande retenue d'eau chargée également d'alimenter le canal. Donc une œuvre gigantesque. Mais derrière ces chiffres, ces constructions, il y a des hommes et des femmes qui ont travaillé au canal. Environ 15 000 personnes ont travaillé aux travaux du canal royal du Languedoc. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que Riquet a fait extrêmement attention aux conditions de travail de cet ensemble d'ouvriers et d'ouvrières. D'abord, la paye est fort satisfaisante pour l'époque. C'est une paye de 10 livres par mois, ce qui est une somme coquette par rapport aux critères du XVIIe siècle. Autre novation chez Riquet, c'est le repos bien sûr du dimanche, mais surtout un dimanche payé, c'est-à-dire que les jours de repos étaient payés. Qui plus est, quand il y avait des intempéries trop importantes, trop de pluie, de la neige éventuellement, et qu'on ne pouvait pas travailler au chantier, eh bien les ouvriers étaient tout de même payés. Et enfin, autre nouveauté extrêmement intéressante à noter, c'est que quand il y avait un accident du travail ou une maladie qui ne permettait plus à un ouvrier de travailler, eh bien, il était également payé. Ce qui fait qu'indéniablement, il y a chez Riquet une attention portée aux hommes et aux femmes qui ont travaillé au canal du Midi. Notons tout de même que les femmes ne sont pas payées au même niveau que les hommes. Il faut dire que, au lieu de 10 livres pour un homme, les femmes touchaient à peu près 4 livres à 5 livres. Le chantier avance bien avec les difficultés itinérantes à un tel projet, mais à la fin des années 1680, le chantier a indéniablement plutôt bien avancé. Le problème pour Riquet, c'est que outre l'argent qu'il a dû dépenser pour l'aménagement du canal, il a connu tout de même quelques échecs. Il avait un projet d'un grand canal qui pourrait joindre la Loire à Versailles. Finalement, cela fut refusé car jugé infaisable. D'autre part, il a été atteint de la goutte et souvent victime d'accès de fièvre parce que comme il visitait régulièrement le chantier, il a été sans doute victime d'un paludisme dans les zones marécageuses ou extrêmement humides de la région du Languedoc. Par contre, il a anticipé l'avenir, car il a obtenu du roi et de Colbert le fait qu'une fois la construction terminée, l'argent des péages qui étaient régulièrement prélevés sur les navires qui traverseraient le canal, eh bien, serait partagé à moitié-moitié entre la couronne et sa famille. Ce qui fait que finalement, celui qui était devenu le seigneur de Bon Repos Riquet, s'il a indéniablement dépensé beaucoup de son argent personnel, a assuré la richesse de ses enfants, d'abord de son fils aîné, Jean Mathias, et puis ensuite de ses descendants, qui, jusqu'à la Révolution de 1789, ont été les principaux bénéficiaires de la construction du canal. Lui-même n'a jamais vu l'aboutissement de cette œuvre. Il est mort à Toulouse le 1er octobre 1680, sans avoir effectivement assisté à la grande inauguration qui eut lieu le 15 mai 1682. Il repose dans la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse, sous le pilier central qui rejoint les deux nefs de la cathédrale, et il est indéniable que cette œuvre du canal du Midi reste encore jusqu'à aujourd'hui une des œuvres majeures du règne de Louis XIV.